Bien, bonjour, bienvenue à chacun, chacune, pour ce temps, alors qui s'intitule conférence, mais moi que je préférerais être dans une interactivité, donc qu'on puisse échanger entre nous sur la thématique de la non-violence aujourd'hui. Je me présente rapidement juste pour dire que je m'appelle Elisabeth Claire et je suis membre du Centre de ressources sur la non-violence, qui est, vous avez les plaquettes qui est là, notre stand est tout à fait à l'entrée, sur la droite, en rentrant dans le village Alternativa. Et le Centre de ressources sur la non-violence, c'est une association qui est basée à Colomiers, qui existe depuis 2003. Alors, on a un des fondateurs, Alain Ruffalo, qui est là, et donc qui pourra répondre à toutes les questions concernant le tout début. Moi, je suis arrivée à l'Assemblée Générale, je n'ai pas vu ce qui s'était passé avant. Et donc, le centre existe depuis 2003, et notre objet associatif, c'est promouvoir la culture de la non-violence. Et pour ce faire, c'est de mettre à disposition de tout un chacun des ressources sur cette thématique de la non-violence. Et donc, on a pour ça un espace documentaire avec une série d'ouvrages qui permettent d'aborder la non-violence sous différents aspects, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais l'idée, c'est que la non-violence nous permette d'aborder tous les aspects de la vie personnelle, relationnelle, organisationnelle dans laquelle on est. Donc il y a une partie documentaire qui fonctionne comme une bibliothèque. Les adhérents peuvent emprunter des livres. On a une partie pédagogique où là on a fait le choix très rapidement de pouvoir s'orienter vers les aspects pédagogiques pour permettre d'aborder cette question de la non-violence dès le plus jeune âge et notamment par les adultes qui s'occupent d'enfants et de jeunes. Et donc on a des ressources pédagogiques sous forme de toute une série de livres et de livrets et aussi sous la forme des jeux coopératifs puisqu'on a fait le choix de promouvoir les jeux coopératifs qui, alors maintenant ça commence à se connaître un peu, mais à l'époque était un peu moins connu. Et donc on a toute une série de jeux et ça fonctionne comme une ludothèque avec la possibilité d'emprunter des jeux. Et on organise des matinées jeux coopératifs qui permettent à n'importe qui de venir et puis on joue avec les gens qui sont là, l'idée étant de voir comment est-ce qu'au travers de ces jeux coopératifs on peut arriver à jouer ensemble avec tout ce que ça veut dire de la notion d'échange, de la notion de comment on gagne ou comment on perd ensemble. Et ça permet de relativiser un certain nombre de choses par rapport à cette notion de gagner ou de perdre. Et puis on a une partie ressources formation avec des formations qu'on organise pendant l'année sous forme de week-end et on répond à des demandes de formation qui nous sont faites par différentes structures et institutions. Et puis après, on est un lieu donc, sur le centre de ressources, un lieu ouvert. Et donc, il y a des permanences qui sont tenues le mercredi matin après-midi et le samedi matin. Mais vous avez toutes les informations sur la plaquette. Donc, il suffira de la prendre pour la regarder. Voilà, pour présenter globalement qui on est. Pour juste présenter peut-être l'entrée dans laquelle on est, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le constat que nous faisons tous, c'est d'une certaine violence qui peut prendre des formes très très différentes, qui peut être insidieuse, qui peut être plus marquée par moments, qu'on voit à tous les niveaux. Ça soit, par exemple, on nous sollicite pas mal dans les établissements scolaires en nous disant les enfants, il faut absolument que vous fassiez quelque chose, les enfants sont violents. Alors on commence par reprendre la formulation en disant les enfants ne sont pas violents. Les enfants, ils peuvent être en difficulté, être agités et ainsi de suite, mais commençons déjà à parler de ce qui se passe et comment ils sont accueillis, reçus et comment c'est organisé. Et là, il y a de quoi faire pour pouvoir arriver à recaler. Mais c'est vrai qu'on voit bien que la violence, elle est dans les milieux, éducatifs. Et je ne sais pas comme les uns et les autres où vous exercez, mais peut-être Alain, tu pourras aussi, en tant qu'instit, en parler. Dans les milieux éducatifs, on a effectivement toute une série de propos qui peuvent être de l'ordre de la violence. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire autrement? Comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, aborder la relation éducative avec les enfants, la relation entre collègues, la relation avec la hiérarchie, de façon qu'il soit apaisé et non violente. Mais on va avoir la même chose dans des entreprises. Et quand on est sollicité pour intervenir dans des entreprises, on voit bien que y a la thématique du burn-out et de tout ce qui peut arriver à l'intérieur des boîtes, on voit bien que ça vient avec une accumulation de situations qui mettent les personnes dans une situation de stress maximum, et on voit arriver la violence, effectivement, on la voit à l'œuvre dans les groupes, dans les entreprises. Mais je dirais la même chose dans les structures associatives, je dirais évidemment la même chose dans le monde globalement économique ou politique, mais on pourrait prendre tous les secteurs de la vie, on voit bien, et il suffit d'ouvrir la radio pour avoir la radio, je dis la radio, mais j'imagine la télé, mais j'ai pas la télé. Donc je sais pas ce qui s'y fait, mais il suffit d'ouvrir la radio pour entendre, et on entend effectivement un certain nombre d'événements qui se produisent et qui relatent des actions, des situations de violence. Alors la non-violence, elle vient faire une proposition d'action, de réflexion, qui est décalée par rapport à la violence. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de répondre à la violence par la violence. La non-violence, elle nous propose de nous décaler, de faire un pas de côté pour arriver à répondre. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés et de ne rien faire, mais il s'agit bien d'être pouvoir répondre, agir, en étant sous une autre forme que ce que l'on conteste et ce que l'on critique, qui est l'ordre de la violence. Et donc c'est vraiment ce décalage-là que nous propose la non-violence, et sous plein de formes. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment le côté très créatif. Ça veut dire que la non-violence, elle nous amène à être dans la créativité. Je peux répondre, je reçois une injure, spontanément, je peux renvoyer une injure. Ça, c'est ce qu'on peut faire de façon très rapide. L'idée, c'est comment est-ce que, au lieu de répondre comme ça, je peux décaler le propos et du coup mettre en œuvre quelque chose qui soit respectueux de ce que je suis, respectueux de l'autre en face, pour pouvoir effectivement faire avancer le problème dont il est question. Et là, du coup, on est vraiment dans une approche de la non-violente de toute une série de situations qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours, notre vie professionnelle, notre vie familiale, associative ou autre. Et c'est vraiment à ça qu'on est convié. Alors quand je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit une violence institutionnelle qui se développe de façon forte, et on l'a vu au travers de tout un tas d'événements en France et à l'étranger, en France aussi. Et je pense que la non-violence, elle nous amène à nous poser cette question de comment on fait ensemble pour arriver à se positionner, être affirmé dans des choix, dans des choses. Alors Alternatiba est bien placée par rapport à ça, dans des choix qui sont importants pour nous en tant qu'individus, pour la planète par ailleurs. Comment est-ce qu'on peut se positionner sans avoir recours à la violence? Et c'est ce sans avoir recours qui est vraiment important. Qu'est-ce que ça nous amène? Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à être dans l'affirmation, la revendication, et être dans un champ qui ne soit pas celui de la violence? C'est à ça que la non-violence nous amène à réfléchir et nous permet d'être. Alors je ne sais pas quels sont vos... je ne sais pas d'où vous venez, quelles questions vous avez, de quoi vous êtes porteurs les uns et les autres, qu'est-ce qui vous intéresse par rapport à ça. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être de partir de ce qui vous anime, et puis qu'on puisse arriver à être dans de l'échange. Alain peut tout à fait intervenir et pour pouvoir répondre aussi sur à la fois le centre de ressources, mais d'autres questionnements autour de la non-violence. Je pense à des actions, par exemple l'action Non à Val-Tolosa, là, qui se déroule depuis plusieurs années sur ce centre commercial, le projet de construction d'un centre commercial à proximité. Voilà. Et il y a plein d'actions sur lesquelles vous pouvez être impliqués, intéressés, à savoir comment les mettre en œuvre au travers d'une approche non violente. Alors, est-ce que vous voulez, vous, partager vos questionnements, vos réflexions, là où vous agissez, ce qui est important pour vous par rapport à ça? J'imagine que si vous êtes venu là, c'est qu'il y avait des choses qui vous intéressaient.
Est-ce qu'il y a des méthodes de la non-violence? Est-ce que vous êtes
intéressé
par la CLV?
Oui.
Il y a une
méthode
de processus quoi?
Oui.
Est-ce que la violence est un peu aussi la CLV? Est-ce qu'il y a des méthodes qui peuvent être en œuvre dans une autre manière de parler et quelque chose?
Tout à fait. Alors, la communication non violente, c'est effectivement un mode de communication. Alors, vous avez déjà entendu probablement parler, c'est assez médiatisé. Il y a un stand juste à côté d'une autre. Et donc, communication non violente, elle a été élaborée, mise en œuvre par Marshall Rosenberg. Et effectivement, il y a tout un processus avec des étapes à respecter pour arriver à ce que, dans notre communication, dans notre façon de dire, nous puissions être dans une approche non violente. Et ça, c'est effectivement un des ressorts importants. C'est ce que je dis. Si ça peut être dénué de violence, ça sera déjà une façon d'être un peu mieux reçu potentiellement par l'autre. Ça, c'est une chose. Mais la communication, elle marche dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est aussi entendre ce que dit l'autre et avoir les oreilles qui soient orientées. Et derrière une critique, un reproche, qui m'est envoyé, être en capacité de mettre en œuvre quelque chose qui me permette de recevoir le message sans pour autant être, et moi, tomber dans la violence. Et donc, c'est tout le travail qui va consister à prendre du recul et être en capacité de repérer chez l'autre que s'il en est arrivé là, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui, chez lui, est chahuté, est bouleversé et qu'il n'a pas d'autre moyen. Pour le moment, il n'a pas trouvé d'autre moyen. Or, la communication non violente nous aide beaucoup dans cette relation interpersonnelle et c'est une partie des ressources existantes. Par exemple, on peut aborder les actions non violentes, au sens même d'action, qui ne se passe pas par de la communication non violente. On va utiliser le ressort, parce qu'on est des êtres de parole, on va donc forcément utiliser le ressort de la communication. Mais ça ne suffira pas. Il faut être en capacité d'agir de façon non violente. Il faut être en capacité notamment de se coltiner tout ce qui va être les difficultés qu'on peut rencontrer. Tant que tout va bien, on est entre. On est avec des gens avec qui ça se passe bien, il n'y a pas de raison de se poser trop de questions. Par contre, quand il y a quelque chose qui se tend, qui coince, que ça soit dans la famille, que ça soit au boulot ou autre, mais comment on fait pour arriver justement à décoincer? Et donc tout le travail autour de la question des conflits va être très important parce qu'effectivement, si je ne mesure pas ma place, si je ne repère pas ma place dans un conflit, je vais peut-être gérer plus de maladresse, créer plus de difficultés, rajouter à la violence qui m'est proposée. Et l'idée de la non-violence, c'est vraiment le choix de ce que je fais et dis diminue le niveau de violence. Ça, c'est la vraie question. Est-ce que quand je fais ou dis quelque chose, ça va diminuer ou au contraire, ça va augmenter le niveau de violence? Et ça, ça demande un travail de communication, mais pas que. La communication non violente, elle est très médiatisée et souvent, il y a une... Alors nous, le nombre de fois où on est obligé d'expliquer que en toutes lettres, ces centres de ressources sur la non-violence et qu'on ne fait pas que un travail autour de la communication non violente, c'est effectivement important de voir que c'est beaucoup plus large. C'est un vrai choix de vie. Jean-Marie Muller parle d'une philosophie de la non-violence. On est vraiment dans une approche qui est très large, pas simplement centrée sur la communication. Mais c'est un aspect important parce qu'effectivement, on peut se rendre compte assez facilement, et probablement vous en avez sûrement fait l'expérience, en tout cas moi je l'ai faite, de repérer que parfois j'avais toutes les meilleures intentions du monde et puis que dans ma façon de dire c'était pas tout à fait ça que je mettais en œuvre parce que j'étais prise par mes émotions, par tout un tas de trucs qui m'amenaient à être dans une communication que l'autre recevait de façon violente pour lui. Et donc ça c'est un axe de progrès que nous avons qui demande du travail en permanence, d'être de façon régulière, retravaillé. Mais ce qui est bien, c'est que la vie, elle nous amène à plein d'occasions. Il ne se passe pas une journée sans qu'on discute avec l'un, avec l'autre. Et on peut à chaque fois se reposer la question de cette pratique de la communication. Mais on va aller beaucoup plus loin avec justement toutes ces ressources existantes, notamment sur l'action non violente. Comment mener une action dans la non-violence? Comment est-ce qu'on peut aborder la question du conflit et transformer le conflit pour en faire une opportunité de rencontre et non pas un truc où on part en claquant la porte et puis il n'y a plus rien derrière. Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez voulez des exemples concrets, des étapes que l'on doit franchir sans, par exemple, quelqu'un nous insulte, on se sent insulté. Évidemment, la réaction première, c'est de répondre en plus tac au tac.
Eh oui.
Alors, qu'est-ce que, concrètement, quelles sont les différentes attitudes à adopter pour éviter ça?
Alors, pour répondre à votre question, j'ai une histoire qui me revient dans la tête, c'est un sage, peu importe, qui, à un moment donné, raconte l'histoire qui a été insulté et qui ne réagit pas plus que ça. Et il dit, mais vous savez, quand quelqu'un vous donne à manger quelque chose, vous donne quelque chose qui est sale et dégoûtant, vous faites quoi? Bah oui, vous le prenez pas. Vous n'avez pas, voilà. Mais l'injure ou l'insulte, c'est de même nature. Je ne suis pas obligée de la prendre pour moi. Et c'est ça qui est difficile. C'est que l'injure prononcée par quelqu'un ou l'insulte prononcée par quelqu'un, elle lui appartient et je ne suis pas obligée de la prendre pour moi. Et le travail va consister, et ça demande du travail, hein, va consister à pouvoir prendre ce recul-là et surtout à se centrer sur l'autre en disant, ben voilà, il en est là et il est sûrement très en colère ou il a sûrement quelque chose qui lui fait défaut, il a sûrement un besoin insatisfait qui à un moment donné l'amène à sortir de ses gonds. Mais je ne suis pas obligée, moi, de le prendre pour moi. Et vraiment l'idée, c'est cette capacité, moi j'appelle ça l'effet airbag. Vous savez, c'est, faut appuyer sur le bouton et pouvoir.
C'est une réaction mentale, on est dans l'émotionnel.
Tout à fait.
Quand quelqu'un nous dit qu'on peut consister. Et alors, est-ce que le fait de penser que l'insulte que l'on reçoit appartient à l'autre
Alors ça va être un entraînement. Il y a quelque chose qui est important quand on aborde l'aspect de la non-violence, c'est que c'est pas, il n'y a pas d'effet baguette magique. Sinon, ça se saurait, on en donnerait à l'entrée à chacun. Et c'est plus compliqué que ça. Ça demande d'abord à faire un gros travail sur soi et sur sa propre violence. C'est pas les autres qui sont violents. Enfin, ils le sont aussi. Mais moi, j'ai ma propre violence à l'intérieur. Et vraiment l'approche de la non-violence, elle va commencer par un travail sur soi qui est fondamental pour arriver justement, alors je vais dire dompter nos réactions spontanées qui sont ancrées depuis qu'on est tout gosse et qui nous font réagir de façon très rapide.
Vous pensez qu'on peut le faire tout seul, ça?
Ah, il y a des formations, il y a des groupes, il y a effectivement, il y a des lectures, il y a des gens qui avancent beaucoup par le biais de la lecture. Je pense que effectivement, la non-violence, elle va nous amener, et c'est ça qui est intéressant dans l'action non-violente, un des aspects, c'est un bonhomme tout seul, il ne pèsera pas lourd, quoi. L'idée, c'est bien comment est-ce qu'on va faire groupe autour de quelque chose qui est important pour nous et qui nous paraît juste, on pourra y revenir, pour pouvoir agir. Et donc, on va s'entraider. Moi, j'ai souvenir de... Justement, c'était sur Val Tolosa, mais il y a longtemps, d'une... Allez-y. Pardon ?
Est-ce que c'était Val Tolosa ?
Bah, peut-être tu peux expliquer, Alain, où on s'en est à l'heure actuelle ?
Sur la commune de Plaisance-du-Touche, c'est pas très loin de Toulouse, il y a des grands terrains qui est dévolu à la construction d'un méga centre commercial par multinationale américaine. Et il y a des citoyens qui sont mobilisés depuis 15 ans. Pour empêcher la construction de ce projet. Donc, il y a tout un mouvement important, des actions. Là, on est un peu entré dans le dur parce que les travaux, les tentatives de démarrage des travaux qui ont été bloquées par les citoyens qui sont mobilisés, on est dans une phase un peu critique. Et le tribunal administratif, plusieurs fois, a donné raison aux opposants. Donc, l'échéance du démarrage du centre recule l'année dernière.
Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'est juste pour revenir sur ça, je me souviens une fois, merci Alain, je me souviens une fois on avait fait une chaîne humaine dans, je ne sais plus quelle commune, dans la commune de Plaisance, et on était je ne sais combien, et on avait alors un certain nombre de consignes par rapport à cette chaîne, c'est-à-dire on se donne les mains, on est en bord de trottoir, il s'agit de ne pas gêner, il ne faut pas rajouter, donc on ne gêne pas un certain nombre de choses. Et à un moment donné, Je me souviens d'avoir une des personnes qui était dans la chaîne avec nous, donc Action non violente, préparée en amont et compagnie. Une voiture qui, le conducteur d'une voiture se met en pétard et dit je ne sais quelle grossièreté ou insulte. Et un des membres de la chaîne a envoyé un grand coup de pied dans la voiture. La réflexe a été de le sortir de la chaîne et de déplorer ce qui s'était passé, mais surtout de pouvoir travailler avec lui sur un geste qui est un geste banal, mais qui allait complètement à l'encontre de ce que nous voulions, qui était de pouvoir montrer notre volonté de résister par la non-violence à quelque chose qui était cette implantation de ce gigant centre commercial. Et ça va vite, on peut vite déraper. Là, ce qui est important, c'est le collectif. Le collectif va aider la personne. On a tous des moments où on va... Et puis après, on s'en mord les doigts. Il était important de pouvoir arrêter la personne tout de suite et de lui dire non, stop. Parce que sinon, ça a vite fait dégénérer. Alors, on est dans quelque chose qui va nous emporter. Et c'est vrai que du coup, c'est un travail sur soi, mais que je vais faire avec d'autres. Et quand on se... Une action non-violente, une des premières choses qu'elle cherche à faire, c'est à créer de la solidarité, à créer du groupe. On est... Et la grande banderole à l'entrée là, d'Alternativa, c'est... comment c'est ? Ensemble, on est une vraie force.
Une force puissante,
voilà, c'est ça. Pardon ?
Une immense force.
Voilà, une immense force. Et il y a de la puissance dans cette force-là quand on est ensemble. C'est sûr que ça fait partie du travail. Et ça demande un travail permanent. C'est-à-dire, il va falloir refaire, reprendre, recommencer, s'entraider, s'entraîner pour pouvoir arriver à être dans quelque chose qui soit de l'ordre de la non-violence. Parce que notre réaction première, elle peut être, elle peut être exactement à l'identique. Et après, ça monte vite. Hein. Quand on est pris par l'émotion, on a vite tendance à monter. Et donc, tout le travail qui va consister à faire redescendre la pression émotionnelle à l'intérieur de soi va être fondamental. Par exemple, Thomas d'Assembourg, qui est un auteur CNV, qui vient bientôt à Grenade, tiens d'ailleurs, au fait, information. C'est dans une assos qui organise ça, mais je ne sais pas quand est-ce que c'est. Mais là, il vient d'ici la fin de l'année à Grenade. D'Assembourg, il dit... Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui tient des propos avec lesquels, très vite, vous vous rendez compte que vous êtes en désaccord complet. Il dit, comptez 20 secondes. Et il dit vraiment, comptez 20 secondes. Alors, pas sous le nez de la personne, parce que ça va augmenter un peu sa virulence, mais vous êtes debout, vous pouvez compter avec vos doigts dans le dos, vous êtes assis sur une table, vous comptez avec vos doigts sous la table, mais faites-le physiquement. C'est important de pouvoir être dans quelque chose où vous mesurez le temps qui passe. Et c'est pas prp, prp, c'est vraiment des secondes. Qu'est-ce qui se passe pendant les 20 secondes où je dis rien ? Ça va me permettre d'apaiser ce qui était en train de bouillonner à l'intérieur. L'autre va pouvoir dire ce qu'il a à dire. Et quand je prendrai la parole, je vais pouvoir être dans quelque chose où moi-même je serai apaisée. Alors il raconte ça un jour, c'était à Montauban, on était allé l'écouter. Et le lendemain, avec le centre de ressources, on était sur un centre social de Toulouse, avec une expo, qu'on a un parcours expo qui s'appelle « La non-violence, une force pour agir ». On était en extérieur Bagatelle. Et on avait tous nos panneaux affichés, puis on était des bénévoles à accueillir les gens qui venaient. Et il y a une jeune femme qui vient et qui regarde chacun des panneaux avec beaucoup d'attention... Puis qui vient nous voir et qui nous dit « Oh, ce que vous faites, super !» Alors, oui, on est là pour ça, voilà, on est tout content. Et non, parce que moi, dit-elle, moi je suis avec des jeunes, là, je suis prof dans un lycée, alors les jeunes d'aujourd'hui, et là, elle commence à démarrer sur sa vision des jeunes d'aujourd'hui, qui va exactement à l'encontre de moi, ce que je pense des jeunes d'aujourd'hui. Je me suis dit « Allez, je compte !» On était assis, donc je compte sous la table. J'ai réussi à aller jusqu'à 15 secondes. Yes ! J'étais contente de moi. Mais surtout, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que quand j'ai pris la parole, je lui ai dit, j'entends votre point de vue, mais alors, moi, ma connaissance des jeunes d'aujourd'hui, elle est assez différente de la vôtre, et de lui parler de ce qui était important pour moi. Et on a pu... Ça n'a rien changé, probablement, à son point de vue. Je n'ai pas de prétention de changer l'autre. Ça, c'est un leurre. Je n'ai aucune prétention à le changer. c'est juste donner à entendre mon point de vue face à quelqu'un qui en a un qui est complètement différent. Alors ça ne va pas changer la face du monde, mais ça lui aura quand même permis d'entendre à un moment donné que tout le monde ne partageait pas ça. Et puis on a pu rentrer dans une discussion, mais en étant apaisé, moi, en plus, ça a permis qu'elle, elle descende aussi. Puisqu'on fonctionne en miroir, hein, les uns par rapport aux autres. Si je m'énerve, l'autre en face va s'énerver. Si moi je m'apaise, l'autre en face, en général, s'apaise. Je dis en général, hein, quand même. Je prends quelques précautions. Mais c'est vrai que c'est très... Ça se travaille. Hein, ce temps d'accueil de ce qui est en train de se passer et d'écouter ce que l'autre a à dire, ben c'est important de le prendre pour pouvoir à un moment donné se positionner, réaffirmer des choses qui sont importantes. D'où l'importance, et ça se... On le voit maintenant se faire de plus en plus, de tout ce qui va permettre aux enfants notamment d'exprimer un désaccord, parce que c'est important, d'apprendre à exprimer un point de vue, d'apprendre à exprimer un désaccord, d'apprendre à entendre un point de vue qui est différent du sien. Et là, il y a vraiment tout un travail qui est fait et qui est passionnant. Je pense à un film qui était sorti il y a quelques années, malheureusement qui n'a pas beaucoup eu de succès public, mais qui existe en DVD, qui s'appelle « Ce n'est qu'un début », où une enseignante de maternelle fait des cours de philo avec les enfants, les petits, hein, des 4-5 ans, et de voir comment les enfants arrivent quand on leur permet d'évoquer, de répondre à des sujets de fond, hein, qui sont des sujets concernant la vie, puisqu'on est dans la philo, les enfants ont vraiment la possibilité d'apprendre à s'exprimer. Et à un moment donné, une petite gamine, je crois, elle a peut-être 4-5 ans, qui dit à un autre enfant, « Attends, j'ai pas fini de parler, tu parleras après moi. » Et la gamine, elle ramène la règle, qui est celle de « chacun son tour, on aura la parole. » Et ça, je pense que c'est quelque chose... On le voit à côté du centre de ressources, il y a des écoles alternatives qui existent. Et on voit bien tout le travail qui est fait pour élaborer la parole. Et même au sein de l'éducation nationale, on voit bien un certain nombre d'enseignants qui permettent ça. Hein, ça va être quelque chose de très important. Apprendre à travailler d'abord sur soi pour pouvoir ensuite travailler avec les autres en étant dans quelque chose qui soit apaisé. Mais ça demande du temps. Et la vie, elle nous offre ça. Elle nous offre cette possibilité-là. Vers quoi je veux aller ? Est-ce que je veux aller vers une société de plus en plus violente et que j'y contribue ? Ou est-ce que je veux aller vers quelque chose où chacun puisse être entendu et où on puisse travailler ensemble ? Et là, bah, ça me regarde à titre personnel et puis après dans les groupes dans lesquels je suis. Voilà, mais il n'y a effectivement pas de baguette magique. Ça, malheureusement, ça ne marche pas. Ceci dit, c'est très, alors j'allais dire franco-français ou en tout cas occidental. Je pense que vous allez en Amérique du Sud, c'est pas l'intelligentsia américaine du Sud qui manifeste non violemment pour le respect de du droit à la terre. Où on est vraiment dans une approche, nous, qui est malheureusement... Ah oui, tout à fait. Ah oui. Alors je dis pas que ça marche. L'idée c'est pas de savoir si ça marche tout le temps. L'idée c'est de savoir que ça fonctionne et qu'il y a effectivement des mouvements non violents qui permettent de faire avancer un certain nombre de causes. Et ça c'est important parce que sinon on va renforcer l'idée que ça serait une élite qui pourrait revendiquer la non-violence alors que ça appartient à tout le monde. Redonnons à chacun la capacité à agir. Je vais prendre un exemple. Je suis formatrice, j'ai travaillé avec des caissières de supermarché. Je ne citerai pas le nom du supermarché, mais de ces supermarchés comment on appelle ça, discount, c'est comme ça qu'on dit ? Enfin voilà, bon bref. Les caissières de supermarché, je les mets au féminin. Il y avait quelques hommes quand même, donc je devrais dire les employés de caisse. C'est pas une classe sociale, en tout cas par rapport à la reconnaissance de leur travail et souvent par rapport à leur origine sociale, hein. C'est des gens à qui il était extrêmement important de redonner la capacité à agir. C'est pas parce que je suis à un endroit, d'ailleurs les personnes le disent, hein, complètement méprisé par les clients, le chef magasin éventuellement et toute la hiérarchie au-dessus, et je pourrais ne rien faire ou comment est-ce que je peux agir? Et l'idée, c'est de redonner à ces gens-là cette capacité à agir et à refuser un certain nombre de choses tout en restant respectueux de l'autre. Et on a travaillé sur le rapport aux clients. Parce que les clients, on est tous clients de supermarché, quoi. Hein. Et le rapport qu'on entretient avec ces personnes-là, ben, c'est important qu'elles puissent avoir toute la légitimité de dire non, ça je refuse tout ce qui va être attentatoire à mon identité personnelle. Je suis autre, quelqu'un d'autre que simplement la caissière. Et donc, il n'est pas question ni d'avoir des gestes, ni des propos qui soient malveillants. Et là, on est vraiment sur... Alors, ça ne se voit pas, mais il y a vraiment un travail de fond qui peut être fait. Et moi, je pense que c'est très important de redonner à chacun cette puissance à agir. Oui, oui. Mais il y a une chose qui est intéressante par rapport à la question des conflits. Parce que souvent, c'est un mot qui nous fait peur. Et on travaille avec Jean-Pierre aussi sur la transformation des conflits. À un moment donné, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut oser le conflit, oser dire le désaccord. Que, effectivement, surtout quand c'est des très proches, ça nous met en difficulté et on est mal dans une relation avec nos proches qui soit défaillante. Mais il y a une idée, voilà, c'est qu'on n'en sort pas forcément comme on était avant. C'est-à-dire qu'on peut avoir été très amis ou très proches d'un frère, d'une sœur, peu importe, hein, vivre quelque chose qui soit dur, on ne reviendra pas comme ça allait avant. Et perdons l'illusion qu'on reviendra pareil. Et peut-être qu'à un moment donné, effectivement, la solution que vous dites, le lâcher-prise, alors que c'est pas évident, hein, mais le lâcher prise, il peut être intéressant. Et là où je vais voir que ça marche, c'est quand moi, j'arrive à être apaisée dans cette relation-là. Et c'est là où j'aurai véritablement atteint ce qui va me permettre de rentrer en contact avec sans me sentir pour autant en difficulté. Et ça demande du travail après avoir épuisé toutes les voies. Par exemple, vous parliez d'insultes. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent, je pense notamment, je reviens sur mes caissières de supermarché. Il y a un moment donné un jeune homme d'origine asiatique qui racontait qu'il était chef caisse, et donc quand il y a un problème à la caisse, on va chercher le chef caisse, et donc il arrive pour régler le problème avec le client, et le client lui dit: je ne parle pas à une face de rat, parce qu'il était d'origine asiatique. Et le gars lui a répondu, et c'était très pertinent, lui a répondu: monsieur, je vous rappelle que les insultes racistes sont répréhensibles, et à ce titre-là, je vous demanderai. Mais il a pu ramener la loi. C'est-à-dire que la loi, quand même, dans un... Alors, on peut après avoir un rapport à la loi, qui est... mais la loi, elle est faite pour me protéger, et pour protéger notamment les plus faibles. Et donc, il faut pouvoir, à un moment donné, rappeler et faire tout ce qui est possible. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des cercles de silence qui se réunissent place du Capitole le dernier mardi de chaque mois à 18h19h. C'est pour que vous soyez à l'heure. Je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être 18h30, je ne sais jamais. Il faut que je regarde toujours sur mon agenda. Les cercles de silence, vous avez déjà vu ça?
Oui, bien sûr, oui, c'est pour les centres de rétention.
Ouais, l'idée, c'est de lutter, de dénoncer les pratiques du centre de rétention de Cornebarieux. Les cercles de silence, c'est un cercle de personnes qui sont debout pendant une heure et qui ne disent rien. Il y a quand même des personnes à l'extérieur du cercle qui sont mandatées pour donner de l'information et répondre à toutes les questions. L'idée, c'est d'interpeller place du Capitole quand le cercle est en place. C'est vrai que on voit bien que ça questionne les gens. Hein. Parfois, il y a de la provoque aussi avec des gens qui traversent, mais bon, c'est une façon de réagir à ce qui est en train de se passer. Mais dans ces cercles de silence, s'il n'y avait que ça, ça ne servira à rien. Derrière les cercles de silence, il y a toute une action qui est faite auprès de la justice pour arriver à ce que les conditions d'accueil des personnes dans ces centres-là puissent être améliorées, qu'on dénonce ce qui est condamnable et ainsi de suite. Donc on est bien dans quelque chose qui... Enfin, je pense, mais Val Tolosa, c'est pareil. Il y a à la fois des actions très précises qui sont faites sur le site J'évoquais tout à l'heure la chaîne humaine, ça se voit. L'idée, c'est d'interpeller les gens par rapport à ça. Mais bien entendu que par ailleurs, il y a tout le travail de contestation, et Alain parlait du tribunal administratif, il y a toutes les contestations qui doivent être mises en œuvre, et là qui demandent à passer par tout l'aspect juridique du terme. On va s'appuyer sur les deux. Et on ne fait pas juste une action non-violente pour qu'elle se voie, on la fait avec un arrière-fond où il y a un travail qui est fait par ailleurs.
Excusez-moi, le monsieur a parlé de quelque chose qui me semble particulier comme type de violence, c'est au sein des familles.
Oui.
De l'amitié, mais surtout des familles.
Oui.
Parce que l'amitié, on est dans la liberté des familles. Dans une famille, on n'est pas dans la
tout à
liberté
fait. On n'a pas choisi.
Donc, souvent le principe de l'absence pendant une demi-heure. J'introduis juste quelque chose par rapport à ça, c'est l'intentionnalité de
l'expérience,
qui est dans une valeur supérieure, je pense encore, sauf dans quelques cas de projection, que dans la citoyenneté, plutôt dans les familles. Et il y en a plus envie de blesser, plus en, parce que vous pouvez ramener la loi. Par exemple, dans le conflit, social, civil. Mais là, dans une famille, on ne peut pas référer à la loi.
Ah, ça
c'est pas de loi. Donc, c'est, je voulais juste dire, nous sommes quelque chose de à part.
Oui, vous avez raison, c'est effectivement très particulier. Après, la loi, elle s'applique à tout le monde, quel que soit le cadre. Mais c'est... quand il y a des faits à l'intérieur d'une famille qui sont de l'ordre de la maltraitance, ça se dénonce. Ah ben, bah, quand même. Mais c'est bien pour ça que...
Il y a très peu de réponses au niveau de la société. Il y a très peu de commissariats qui prennent en compte...
Je vous invite à aller à côté du stand du centre de ressources. De l'autre côté, on a OVO, qui est l'Observatoire sur les violences éducatives ordinaires, qui est là, et je vous invite à aller les voir. Mais vous parliez du lâcher-prise, et je crois que le lâcher-prise, c'est vraiment une des formes à un moment donné qui peut être la bonne. Il faut juste vérifier que c'est OK pour soi. Ça veut dire, c'est pas je laisse tomber, je me casse, et puis et avec tout ce qui peut rester comme arrière-fond qui ressortira à la première occasion, c'est réellement un travail de lâcher complet. Ça veut dire, c'est OK pour moi, et ça, je peux y arriver. Ah oui, tout est à l'œuvre. Tout est à l'œuvre. Mais vous, madame, ramène une chose importante, c'est la question de l'intention. Quand je disais tout à l'heure, c'est quand je fais ou dis quelque chose, quelle est mon intention? Et par exemple, on évoque dans le travail autour des conflits, on travaille beaucoup sur la question de la colère. Souvent, la colère est mal vue, alors que la colère, c'est une émotion qui a un versant effectivement extrêmement destructeur. Ça veut dire, quand je suis en colère, je suis capable de casser la gueule à tout le monde, voilà, globalement. Mais la colère, elle a un côté très positif aussi, que parfois, malheureusement, on occulte. La colère, c'est ce qui va me faire me lever pour dire non, stop, et pour pouvoir m'opposer à un moment donné à quelque chose. Mais quand je suis dans une colère pour faire valoir des droits, là, je suis dans une colère qui va être une colère, alors ce que dans certains textes, on va appeler une saine colère, hein, qui n'a rien à voir avec la colère destructrice qui est spontanée, ce que vous disiez tout à l'heure, qui sort très rapidement. Et c'est important d'avoir cette capacité, à un moment donné, on parle de pouvoir se révolter, pouvoir à un moment donné dire non, ça suffit. Oui.
Je me souviens d'une anecdote personnelle avec quelqu'un de proche qui avait eu une attitude qui m'avait blessée.
Oui.
Donc, comme j'étais blessée, j'ai eu envie de le blesser.
Eh oui.
Par réflexe.
Oui.
Réflexe.
Tout à fait.
Et le soin qui m'avait directement répondu, pourquoi tu me dis ça? C'est méchant, ça me blesse, mais c'est pas vrai.
Oui.
Et directement, je me suis dit, mince, c'est vrai, j'avais juste envie de le blesser.
C'est ça.
Et s'il avait
c'est ça.
De la même manière, on s'est fini en gros conflit et on s'est fini du mal pour rien. Donc, du coup, ça m'a permis de vraiment réfléchir à pourquoi j'étais blessée par rapport à ça. Je lui ai expliqué calmement les choses. Et tout est rentré dans l'ordre. Et...
Tout à fait, tout à fait.
Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, face à quelqu'un, donc de proche, après, si c'est quelqu'un, on peut juste laisser passer et dire qu'on ne peut pas tomber. Mais si c'est quelqu'un de proche, justement, sourire à lui et lui dire ce que ça nous fait.
Tout à fait.
Dans nos émotions et essayer de comprendre pourquoi il dit ça.
Ouais. Oui, tout à fait. On est bien sûr. Prendre la responsabilité de ce qui nous arrive à nous et pouvoir le dire sans porter. Alors, quand on travaille autour de la question des jugements, dire à l'autre « tu me blesses », ben forcément, il y a quelque chose qui va être inentendable. Alors que de parler de ce qui m'arrive à moi va permettre de pouvoir éventuellement aller plus loin. Et ce que vous avez fait, c'est-à-dire la capacité à négocier. Et on va négocier à partir de nos besoins. Il avait besoin de je ne sais pas quoi, vous aviez besoin d'autre chose, et on va négocier la satisfaction de nos besoins. Et ça, c'est important.
Je tourne en train de penser en ce moment qui mène beaucoup. Alors, je suis un peu fou là. C'est Stéphane Todorov.
Ouais.
Qui, lors d'une émission de transculture à PCDC, quelque chose par rapport à notre société, parce qu'on est pris dans notre société,
ouais,
au niveau culturel, mais pour lui, il a beaucoup voyagé,
oui,
il dit, attention, la souffrance,
oui,
n'est pas un passeport de droit.
Or, oui,
dans
tout à fait.
Dans notre société, actuellement, ouais, vous souffrez, donc vous avez des droits. Or, ouais, lui, il a traversé quand même des horreurs, ouais, hein, aussi plus récente que celle qu'on a traversée il y a 70 ans à peine. Dit, attention, souffrir, c'est pas un passeport, c'est pas un droit, c'est, voilà, c'est, non, mais souffrir, mais
chauffe,
voilà, c'est pas,
ça va être beaucoup. Oui, oui, et effectivement, alors, dans ce que dit Todorov, il y a l'idée que, effectivement, il y a cette idée-là, et que le droit, il va se fonder sur notre humanité, et pas simplement sur notre souffrance, mais il va se fonder, nous avons des droits en tant qu'être humain, au même titre que nous avons des obligations en regard. C'est-à-dire, j'ai le droit d'être respecté, mais il faut que je le rende à l'autre. Hein, sinon, ça ne peut pas marcher, ça ne va pas le faire. Et c'est effectivement intéressant de repérer qu'on se base sur l'humanité en tant que telle, au sens de nous sommes des êtres humains qui devons être protégés dans ce que nous sommes. Ça veut dire dans notre corps, dans nos biens, dans notre vie. Et ça, c'est important. Alors, après, Todorov, il développe la partie... Et effectivement, nous sommes tous, et là, alors avec plus ou moins de facilité pour reprendre le propos que vous disiez, monsieur, mais on a tous des souffrances, voilà, alors qui sont sur l'échelle de la souffrance, c'est difficile hein, de mesurer. Parce que ce qui me fait souffrir à moi est forcément pour moi important. Et on est tous des êtres qui avons un certain nombre de, dans nos sacs à dos qu'on se porte au quotidien, un certain nombre de souffrances. Il nous appartient, et c'est là où il peut y avoir des écarts importants, il nous appartient de les prendre en charge, de les prendre en œuvre pour arriver à avancer là-dessus.
Vous dites. Ah, oui, non, après, je ne connais pas beaucoup de la violence, ça m'intéresse beaucoup. Par contre, avec tout ce qu'on est en train de dire, je me demandais si ce n'est pas forcément que refouler
non,
ou nier ses émotions.
Au contraire.
Oui, mais est-ce que c'est vraiment les exprimer, dire
tout à fait.
Là, je suis triste, je suis vraiment en colère, etc. Enfin, c'est pas des choses qui sont si faciles à dire, en fait, de se mettre à nu émotionnellement parlant. Et puis tout le monde n'est pas forcément capable aussi de recevoir les émotions des autres.
Alors, c'est intéressant la façon dont vous le posez. Il ne s'agit pas de nier mais d'accueillir, au contraire, de pouvoir exprimer et de les exprimer. Je ne cherche pas à les imposer à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est...
De les imposer, parce que quand on les communique, forcément, on verbalise. Donc ça veut dire que l'autre l'entend, de toute façon. C'est pas de l'imposer.
Alors, rassurez-vous, si vous ne le dites pas, il ne l'entend pas, mais il la voit. Donc, de toute façon, c'est évident que nous sommes des êtres d'émotion. C'est même comme ça. Heureusement qu'on a ça. Je veux dire que si à un moment donné, tout à l'heure, il y a les grilles à l'entrée d'Alternativa qui sont tombées, eh bien on est plusieurs à avoir fait ah! En faisant un bond, et heureusement, sinon on se serait fait... Heureusement qu'on a eu peur. Et réhabilitons les émotions. Les émotions, elles vont être le signal d'un besoin qui est frustré chez moi. Et ça, c'est très important. Parce que si je me grille sur mes émotions, si je les tais, si je les planque, ben, je vais continuer à aller mal. L'idée, c'est au contraire de les accueillir et de les revendiquer comme étant quelque chose qui peut tout à fait être partagé, à condition que je puisse, moi, me sentir à l'aise par rapport à ça. Il n'y a pas d'obligation. C'est juste l'accueil et la verbalisation. Déjà, ça diminue le niveau de l'émotion, plutôt que de le taire. Le taire, quand on est en colère après quelqu'un, si vous le dites pas, ben, de toute façon, l'autre le voit. Alors, il vaut mieux le dire. Déjà, vous, ça vous calmera. Et puis, l'autre en face, il saura ce qui se passe. Dernière parole, parce qu'il est 25.
D'accord, c'est que nous sommes dans des sociétés dans lesquelles les émotions ont toujours été refoulées depuis tout petit. Quand un enfant qui pleure, c'est pas grave, ne pleure pas, c'est grave. Ne te mets pas en colère, ça se fait pas, sois gentil, sois toujours gentil. Vous déposez vos enfants, vous dites, sois gentil avec mamie, sois gentil avec papa, sois gentil, gentil, on grandit avec ça. Comme vous avez dit, là on refoule, à l'âge adulte, on n'a pas l'habitude, alors ça s'explose, parce que les colères c'est impulsif, explosif. Mais ça peut aussi créer des maladies. Les gens forcent de refouler des choses, ça sort ailleurs, ça crée des cancers même. Passer sa vie à refouler ses émotions, c'est la chose, comme vous avez, la plus importante qui existe.
On fait rapide parce qu'il faut qu'on libère la salle après. Allez-y.
Aussi apprendre à gérer ses émotions, ça ne veut pas dire que les enfants exposés ou faire ce qu'ils ont, c'est moi, je suis plus il y a un situation.
Tout à fait. Mais c'est pour ça que vous avez raison et je vous propose de vraiment finir là-dessus. L'idée, c'est quelle est mon intention ? Et vraiment avoir en tête en permanence. Et moi, personnellement, le curseur, c'est ça augmente le niveau de violence ou ça le diminue ? Et vraiment, quand je dis ou fais quelque chose, en quoi ça agit par rapport à ça ? Et pour moi, c'est une ligne directrice. Ça veut dire qu'effectivement, ben, j'ai par exemple des voisins en dessous de chez moi, j'aimerais pouvoir aller dire que ça sert à rien de gueuler sur les gamins. J'ai pas encore trouvé la façon de le faire qui permettrait de diminuer. Et bien pour le moment, je préfère ne pas faire et réfléchir comment le faire plutôt que d'y aller, de sonner à la porte et de... Et là, avec le risque que ça prenne une proportion. C'est dans l'intention que nous avons vraiment d'arriver à agir chacun d'entre nous avec cette idée de contribuer à diminuer le niveau de violence. Voilà, évidemment c'est rapide. Si vous ne les avez pas pris, je vous invite à prendre les plaquettes et à venir nous voir. Puis allez sur le site et vous verrez. Merci.